un logo qui devient pop.
Oui, c'est le logo des années, la fin des années 70. Je crois qu'il a été fait par Sonia Delaunay. Et c'est un album des Stinky Toys. Alors, évidemment, cet album a une histoire parce que ils ont fait un concert au Palace auquel ils m'ont invité. Donc, je suis arrivé à Paris. Et quand je suis arrivé dans leur loge, il y a un carton qui est arrivé de la maison Vogue avec des exemplaires, les premiers exemplaires du disque. Et Ellie a sorti ce premier exemplaire et me l'a donné. Donc voilà. Donc, c'est le même. C'est toujours cet album pour lequel j'ai vraiment une affection toute particulière. Au-delà du fait que ce soit un grand disque, pour moi, c'est aussi un disque avec une belle histoire.
La pochette peut-être ?
La pochette est toute jaune. Alors, il n'y a pas de titre non plus, donc ça peut s'appeler l'album jaune. Peut-être que tous les grands albums ont des couleurs. Tout à l'heure, c'était l'album orange. Là, c'est l'album jaune. Il y a l'album blanc des Beatles. Et il y a une chanson que j'aime tout particulièrement, que j'avais découvert à Rennes, quand ils sont venus chanter. Elle s'appelle For You.
On a le temps à l'époque.
Oui.
Ce genre de musique-là, à l'époque en France, ça devait être très particulier quand même, non ?
Oui, c'est très sophistiqué en fait. Leur premier album était très punk, donc tout allait en trombe, très, très rapide, très énervé comme ça. Et puis le deuxième album est vraiment un album de virtuose avec plein de chansons différentes, très mélodiques, très arrangées. C'est un groupe qui a été vraiment sous-estimé. Et là, le refrain arrive. Ces guitares géniales, quoi. Larry Kenbaker de Jacques No, un son très très spécial. Voilà, donc un grand disque, quoi, encore.
Quand on parle de Rennes, l'enfant entre guillemets du pays, c'est quand même Étienne, voilà, c'est quand même. Quand on parle Étienne Dao, on parle Rennes. C'est peut-être, je crois, aussi une fierté pour Rennes, quoi. C'est une fierté pour les Rennais, ouais. Ouais, sans doute, sûr même.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois. Je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio. Et en fait, j'aime bien les choses en live et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton... Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Les femmes à l'attitude punk fascinent Étienne Dao. Elie Medeiros, Brigitte Fontaine et Jeanne Moreau sont ses trois reines de cœur. Entre 76 et 79, Elie Medeiros est la chanteuse du groupe punk parisien Stinky Toys. Dao réalise un rêve. Le 20 décembre 78, il n'en revient pas. Ils sont là, grâce à lui. Les Stinky Toys donnent un concert explosif à la salle de la Cité de Rennes. Les Stinky Toys se métamorphoseront à l'aube des années 80 en Elie et Jacques No, un duo pop électro à grand succès. Avec Dao, ils deviendront aussi les meilleurs amis du monde. Septième épisode de Dao fan de pop avec les divinités punk du chanteur.
Donc on va traverser la pièce. Alors là, il y a une très très grande affiche.
Oui. En fait, c'est un roman photo qui était paru dans Rock and Folk. C'était l'époque où tout ce qui concernait les Stinky Toys me faisait vraiment rêver. Et j'avais dû découper certainement les pages de ce roman photo dans Rock and Folk. Ça devait être en 70... Je crois qu'il y a la date. Je pense que c'est 77. C'est encadré, c'est très grand. Donc là, il y a la page de garde avec marqué « Punk Story ». Où on voit Elie Medeiros qui boit de la bière, de la Valstar, j'imagine, à l'époque, parce qu'en fait, il demandait de la Valstar quand il faisait des concerts, c'est la consigne, c'est la pire des bières. Et voilà, c'est très beau, je trouve que ça a bien pris sa place, quoi. C'est à la fois mon histoire, la leur, et puis esthétiquement, je trouve ça très beau.
Et ça se termine par une photo couleur. La dernière photo, le dernier petit carré, c'est une photo couleur.
Oui.
Où on voit Ellie Medeiros, qui est accrochée au bar, elle est plutôt...
Oui, c'est beau.
Couchée sous le bar, ah, pratiquement.
C'est une belle attitude, c'est très rock, et théâtral en même temps. Mais elle est très rock, et elle a toujours été très stylée, toujours... Un grand sens de l'esthétique, un grand sens de des choses, des anticipations esthétiques toujours.
Votre premier concert organisé à Rennes, les Stinky Toys. Racontez peut-être comment vous avez monté ce concert. Vous aviez vraiment envie de voir les Stinky Toys sur scène et vous avez dit, ben, pourquoi pas l'organiser moi-même, quoi, finalement.
Oui, je lisais, comme tous les adolescents, Organ Folk et Best. Et donc, j'étais fasciné par cette nouvelle scène qui était en train d'émerger, qui était, qu'on appelait punk, enfin, c'était vers 76, 77. On commençait à beaucoup entendre parler des Stinky Toys. Et à voir quelques photos. Et ils étaient stylés, sublimes. Je suis tombé amoureux de l'image avant de tomber amoureux de leur musique. Et j'ai réussi à obtenir un 45 tours que j'ai acheté à Amsterdam.
On était partis, quelques Rennais.
Jean-Louis Brossard.
En bus, sur deux jours Amsterdam.
Co-fondateur des Transmusicales de Rennes.
Je me rappelle, on est rentré un moment chez un disquaire qui s'appelle Boudisque. C'était vraiment le disquaire d'Amsterdam. Et là, Étienne s'est mis à écouter un disque, pendant une heure à peu près, puisqu'il l'écoutait, il l'a écouté deux fois à suivre. Et c'était l'album des Sticky Toys, le premier album. Il avait même acheté d'ailleurs un 45 tours des Sticky Toys, Bluesy Creek, qui est le seul single qu'ils ont fait, mais avec la version anglaise.
Et je suis vraiment devenu dingue de leur musique. Avec mes premières économies, j'ai acheté leur album que je trimballais partout.
J'ai bien aimé après Jacques No, mais les Sticky Toys, ça ne me parlait pas du tout.
Jean-Christophe Éluard, ami de jeunesse d'Étienne Daho.
Il faut dire qu'ils nous emmerdaient, ils nous fatiguaient, mais il n'y avait plus que ça.
Il était un petit peu ébloui.
Jean-Éric Perrin, à l'époque journaliste à Rock & Folk.
Par l'aura de musiciens parisiens qui avaient déjà fait un disque, qui avait une certaine notoriété. Bon, il y a tout ce fameux parcours des Stinky Toys, qui avait joué au fameux festival punk au 100 Club, à la même affiche que le Clash, les Sex Pistols, etc. Donc il y avait une espèce d'aura comme ça autour de ce groupe. Et puis lui a été vraiment archi fan, comme tout le monde, il était amoureux des Limées des Roses.
J'avais été voir Marquis de Sade aux Roses Bonbons à Paris.
Richard Dumas, photographe.
Au début des années 80, je crois. Et puis Ellie était là, elle dansait sur la piste, elle était comme une poupée magnifique, presque intouchable, comme ça, une beauté incroyable. Et à Rennes, on était vraiment tous fascinés par les Stinky Toys.
Je traînais beaucoup avec un garçon qui s'appelle Hervé Bordier, qui a organisé les premières Transmusicales, ce festival de Rennes qui est si important et qui a pour but vraiment de montrer ce qu'il y a de plus neuf, de plus novateur, de plus intéressant. Et Hervé m'a dit, moi je fais pas ce concert, fais-le toi. Moi j'avais jamais organisé de concert, je ne savais pas du tout comment organiser un concert, mais j'avais tellement envie de les rencontrer, de les voir, comme une espèce d'intuition au-delà de l'espace. Et je les ai fait venir, donc il m'a donné la marche à suivre.
Pour faire venir les Stinky Toys, Étienne a décidé de monter une association Loi 1901 qui s'appelait Ellipse.
Sylvie Coma.
J'étais dans le coup.
Amie d'Étienne Daho.
En réalité, Étienne ne montait cette association que pour une et unique chose, faire venir son groupe fétiche, les Stinky Toys, à Rennes.
J'ai monté une association qui n'a duré que l'espace d'un concert, celui-là. Et j'ai embarqué deux amis à moi, Sylvie Coma et un autre garçon qui s'appelait Yves Chapois, que je connaissais depuis les scouts. Et on a monté ce concert tous les trois. Voilà.
Il était fan du premier album, qu'il connaissait par cœur.
Élie Médéros.
Pour nous rencontrer, il avait trouvé cette ruse d'organiser un concert. Donc on avait joué avec Marquis de Sade.
Ça avait été le grand problème. C'est-à-dire que, évidemment, vu de Rennes, il était évident que ceux qui devaient faire la première partie des autres, c'était les Stinky Toys, les Parisiens, qui n'étaient pas connus, dans le fond, à Rennes, puisque le groupe phare, c'était les Marquis de Sade. Donc, nous voilà, Étienne et moi, à la grande poste de Rennes, dire, bon, il va falloir qu'on appelle les Toys pour leur demander s'ils veulent bien faire la première partie des Marquis de Sade. Le coup de fil a été très rapide. On a eu Ellie au téléphone. Ellie a répondu pas question et nous avons raccroché. Donc, il ne nous restait plus qu'à essayer de convaincre maintenant les Marquis de Sade, les vedettes, de faire la première partie des autres. Ça a été très long, ça a été très dur. On s'est bien engueulé et finalement on a tranché, ou plus exactement ils ont tranché, en décidant que bien, ok, ils feraient la première partie des Stinky Toys, mais que leur concert à eux aurait la même durée que celle des Toys.
J'ai pas l'impression qu'on ait tellement insisté de notre côté.
Franck Darcel, cofondateur du groupe Marquis de Sade.
Pour passer en vedette, parce que de toute évidence les Toys sont plus connus que nous à l'époque. Enfin, je crois pas que ça nous ait dérangé de passer en première partie. Après, peut-être que tout le monde n'était pas d'accord avec cette option, mais enfin, personnellement, ça me posait pas de problème, non.
Dao, fan de pop.
C'était en décembre.
Sylvie Coma.
Il neigeait, tempête de neige.
Ami d'Étienne Dao.
Ils étaient venus dans un van pourri, pas chauffé, avec un journaliste qui a eu son importance aussi, qui s'appelle Jean-Éric Perrin, et qui avait lancé dans Rock'n'Folk la rubrique Frenchy But Chic.
C'était vraiment une aventure, parce qu'il y avait...
Jean-Éric Perrin.
Le côté totalement roots des choses, c'est-à-dire qu'on était parti donc dans un van sans chauffage en plein mois de décembre, tout le groupe entassé avec vraiment à l'ancienne avec les guitares, les amplis, enfin tout le bazar comme ça, et tout le monde serré entre le matériel dans cette espèce de van brinque-ballant qui avait été loué pour l'occasion.
Donc ils arrivent, on monte le concert, donc ça se passait place de la Cité.
On n'était pas du tout organisé, on n'avait aucune idée de ce que c'était que l'organisation d'un concert.
On s'est retrouvé donc une nuit de tempête de neige avec des centaines de gars positionné devant les portes de la salle de la Cité, piétinant dans la bouillasse et dans la neige, qui attendait qu'on ouvre les portes. Et nous, on ne pouvait pas ouvrir les portes parce qu'on n'était pas prêts. Et tout d'un coup, ils en ont eu ras-le-bol. Ils ont défoncé les portes et des centaines de gars sont rentrés comme ça, en bousculant tout. Étienne s'était assis sur une barrière métallique pour essayer de jouer sans doute, je sais pas quoi, les vigiles, les portiers. Il s'est retrouvé les quatre fers en l'air et les gars sont entrés sans payer.
Sans payer, bien sûr. Ce qui nous a foutu dans une merde terrible pendant des années, mes copains et moi. Et puis en fait, j'ai vu passer tout ces gens-là, mais je me suis dit, mais en fait, je m'en fous. La seule chose qui m'intéressait, c'était de les voir. Donc j'ai planté tout ce monde et puis je suis allé au premier rang et j'ai regardé le concert et c'était vraiment la fête, quoi.
Alors Sylvie Coma, le 9 rue de Nemours à Rennes, 4e étage, qu'est-ce qu'on y trouvait ?
On y trouvait l'appartement d'Étienne, Étienne Dao, qui était un grand appartement, un peu vide et surtout pas chauffé. Et ça, l'hiver, c'était quand même un problème. Je me souviens qu'on se réfugiait dans la cuisine et qu'on allumait à fond le four, en ouvrant la porte du four et on se coinçait devant. Voilà. Et dans cet appartement, qui était tout blanc, il n'y avait pas beaucoup de choses dans le fond. Il avait sa machine à écrire, des dinky toys qui montaient jusqu'au plafond, très années 50, des petites voitures de collection, là, de toutes les couleurs, un tourne-disque, puisqu'à l'époque, on était en vinyle, et par terre, bien rangés contre les murs, des piles de disques. Voilà. Et un lit bateau. J'oublie le lit bateau, qui était minuscule, c'était un lit d'enfant dans lequel on dormait plié en quatre, quoi. Voilà. En gros, c'était ça, l'appartement. Sauf qu'il avait aussi, je me souviens, quand même quelque chose d'extraordinaire pour nous tous. Il avait une salle d'eau avec une baignoire sabot minuscule dans laquelle on s'asseyait en se remontant les genoux sous le nez, mais qui attirait quand même pas mal de copains qui, eux, étaient dans des pioles d'étudiants et qui venaient avec leur serviette de bain, comme on va au bain-douche ou à la piscine.
Et donc on était en décembre.
Jean-Éric Perrin, à l'époque journaliste à Rock et Folk.
Il faisait un temps hivernal et en sortant du concert, il y a une tempête de neige, ce qui fait que le véhicule étant vraiment peu fiable et on devait normalement rentrer après le concert à Paris, ce qui était évidemment injouable.
Et donc ils sont venus chez moi, je ne pouvais pas leur payer l'hôtel bien sûr, mais on s'est tous retrouvés à la maison avec quelques amis. J'avais un appartement où il n'y avait pas de chauffage, il faisait vraiment moins 12.
Mais il faisait très froid et on s'était agglutinés.
Élie Médéros.
Autour d'un petit radiateur, on avait passé la nuit à parler de tout, enfin certainement beaucoup de musique et puis d'autres choses.
Donc on était tous, je me souviens, j'ai cette vision de nous tous massés autour d'un petit chauffage électrique et on a refait le monde et j'ai senti, enfin mon intuition était juste en fait. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment rencontré une famille d'esprit. Il y avait un lien immédiat, on aimait les mêmes choses, on pouvait aimer aussi bien le Velvet Underground que Françoise Hardy, ce qui à l'époque était improbable, on était vraiment dans des chapelles, des choses très fermées, on ne pouvait pas aimer des choses aussi différentes, on ne pouvait pas aimer la pop française et l'underground le plus pur new-yorkais. Mais moi si, et eux aussi.
Une espèce de petit électrophone et on avait passé la soirée à discuter, évidemment à écouter de la musique et beaucoup de musique, donc évidemment du Françoise Hardy, du Velvet Underground, du Ricky Nelson, enfin tous les artistes qu'il fascinait et sur lequel évidemment il trouvait un terrain d'entente avec Jacques No et les Stinky Toys, puisqu'en fait c'était quelque chose qu'on partageait tous.
Il a super sympathisé avec eux, quoi. C'était une véritable rencontre.
Jean-Louis Brossard, cofondateur des Transmusicales de Rennes.
C'est là où il leur a parlé du fait qu'il commençait à faire de la musique, etc., que nous on savait même pas à Rennes, toi, c'est quelque chose d'assez secret.
On a été sidérés. Parce que alors ça, franchement, on s'attendait à tout sauf à ça, Étienne n'avait pas de voix.
Moi, je savais même pas qu'il travaillait avec Richard Dumas, qui était photographe aussi, voilà, qui était musicien. Et c'est bien parce qu'après, c'est Jacques No qui a quand même produit son premier album. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien chez Étienne. C'est-à-dire qu'il y a un truc que je trouve formidable chez lui, c'est qu'en fin de compte, tous les gens dont il était fan, mais il les a rencontrés, il a collaboré avec eux, quoi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Il est fort, ouais.
Élie, par la suite, l'a beaucoup aidé parce que elle a travaillé Jacques No au corps pour qu'il devienne son producteur. Il s'écrivait.
On s'envoyait des cartes postales. Et j'ai découvert qu'on aimait des choses qui n'étaient peut-être pas à l'époque les choses que tout le monde écoutait ou les gens de notre âge et tout ça. Parce que par exemple, moi j'écoutais de la bossa nova qui était peut-être plus normale vu que je suis uruguayenne, mais lui il en écoutait aussi. C'est-à-dire qu'on partageait des goûts qui étaient assez disparates. Donc en fait, on se retrouvait plein de points communs et je pense que ça tissait notre amitié aussi.
Dao, fan de pop.
Étienne Dao monte sur scène avec Jeanne Moreau pour une version musicale du Condamné à mort, long poème de Jean Genet dédié à un truand qui sera guillotiné en 39 pour avoir égorgé son amant. Point d'orgue du Condamné à mort avec Moreau et Dao l'été 2011 au Festival d'Avignon. Le Condamné à mort, mis en musique par Hélène Martin, chanteuse et compositrice.
Hélène Martin, qui est quelqu'un que j'ai connu lorsque j'étais adolescent et qui a contribué véritablement à mon développement, notamment mon intérêt pour certains poètes, et notamment pour Jean Genet. Elle m'a demandé de venir chanter avec elle à Paris. Elle faisait un concert, et elle m'a demandé de chanter une chanson avec elle. J'ai choisi Sur mon cou, et j'ai été tellement heureux dans cette chanson, je me suis senti tellement bien. C'est une manière de me reconnecter avec mon adolescence et avec ma culture. Ça a été une chanson importante parce qu'elle a contribué à ma sensation et mon envie de liberté qui est revenue en trombe à ce moment-là, quoi.
Sur mon cou sans armure et sans haine, mon cou, que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup.
C'est ça qui est bien, c'est que je pense qu'il se laisse beaucoup porter par ses émotions et par sa fibre artistique, ses rencontres.
Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Dao.
Et que chaque nouveau rendez-vous est une nouvelle étape. Il n'y a pas de plan de carrière chez Étienne. Il n'est pas là à se dire, il faut que je fasse un album tous les deux ans. Il n'est pas à tourner à telle date. Regardez l'histoire du Condamné à mort, par exemple. Voilà, ça a été quelque chose qui est arrivé comme ça. Quand Jeanne est venue le voir à l'Olympia, et il se laisse beaucoup porter aussi par ce que la vie lui apporte.
Mais viens matin, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
Alors Jeanne était venue me voir à l'Olympia, à l'époque où je tournais avec l'album L'Invitation, et je la voyais, elle était devant moi, premier balcon, en face, elle dansait. Elle était cette jeune fille qui dansait devant moi. C'était merveilleux, hein. C'était magique. Et elle est venue me voir dans la loge. Elle m'a parlé du concert, mais elle m'a parlé du concert avec ses mots et son expérience de femme, de spectacle, de théâtre. C'était passionnant la manière dont elle a capté ce show. Et elle m'a dit à quel point elle avait été émue par Sur mon cou que je chantais ce soir-là. Et avec l'euphorie de la soirée, je dis, faisons l'intégrale de l'œuvre. Elle m'a dit oui. Tout de suite. Et on s'est retrouvé une semaine après chez moi à travailler ce texte. On a mis un an à le faire. Et puis on avait l'impression de porter un drapeau avec Jeanne. C'était vraiment comme un disque politique. C'est tellement merveilleux d'avoir pu faire cet album et ensuite de tourner avec Jeanne. Parce que ça a été un moment incroyable. Moi, je suis pas un acteur, mais je tout d'un coup, on échangeait nos mondes. Elle me faisait partager le monde du théâtre. Elle m'a amené à Avignon, à l'Odéon. Et moi, je lui faisais partager le monde de la pop. Donc, on a fait des salles beaucoup plus pop. On a eu une relation équitable. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on peut être facilement écrasé et par le personnage et par la personnalité de Jeanne. Et là, vraiment, ça a été une fluidité extraordinaire. Elle a senti que je l'aimais et que j'avais aussi envie de tout faire pour la mettre en valeur.
La chanson qui traverse un monde ténébreux, c'est le cri d'un marlou porté par ta musique. C'est le chant d'un pendu raidi comme une trique. C'est l'appel enchanté d'un voleur amoureux. Un dormeur de 16 ans appelle des bouées que nul marin ne lance aux dormeurs affolés. Un enfant reste droit contre le mur collé. Un autre dort bouclé dans ses jambes nouées.
Les assassins du mur s'enveloppent d'aurore. Dans ma cellule ouverte, tout chandée au sapin, qui la berce accrochée à des cordages fins, nouée par des marins que le clair matin dort, qui grava dans le plâtre une rose des vents, qui songe à ma maison du fond de sa Hongrie, quel enfant s'est roulé sur ma paille pourrie. À l'instant du réveil d'amis se souvenant.
Et donc au fur et à mesure sur scène, c'était très très bizarre, parce que, enfin c'était très difficile, parce que elle lisait un texte pendant 20 minutes, et moi je restais tout seul sur scène, dans la lumière, sans rien faire, en étant immobile. C'est difficile à faire, parce que d'abord on est traversé de mille idées de panique, quel est le premier son qui va sortir, j'ai oublié tout le texte, enfin toutes ces idées qui font peur. Et j'ai beaucoup appris en fait. J'ai beaucoup appris justement de n'avoir rien à faire devant un public, d'être immobile dans la lumière devant un public.
Et Jeanne Moreau, vous avez l'occasion à ce moment-là de l'observer. Je pense que c'était des moments rares aussi. Vous la voyez devant vous sur scène.
On était très fusionnels. On était vraiment ensemble. Donc j'étais pas dans l'observation. Je la voyais de temps en temps parce qu'elle ondulait comme ça. Quand il y avait la musique, quand je chantais, elle bougeait comme ça. Je chantais son œil sur moi, mais je sentais vraiment qu'on était ensemble, tout le temps, à chaque instant, chaque seconde. Et puis, au fur et à mesure, elle a senti, c'est quelqu'un qui aime la lumière. C'est quelqu'un qui a tendance à l'avaler, cette lumière, à la manger. Moi, je m'en fous de la lumière. J'en voulais pas. Enfin, pas particulièrement. J'avais pas envie, de prendre de la lumière dans ce cadre-là, quoi. Enfin. Et donc, petit à petit, elle s'en est aperçue, et elle m'a poussé devant elle. Et à Avignon, qui était dans le Palais des Papes, qui était le dernier concert, elle m'a carrément poussé devant. Et elle m'a enlacé comme ça, elle s'est mise derrière moi, elle m'a enlacé. C'était incroyable ce moment, parce que c'était un moment de la sensation de faire quelque chose de beau, la sensation de la confiance.
avec les musiciens aussi, c'était un moment de fusion collectif, quoi. C'était fort de faire ça. Les gens ont trouvé que c'était un projet risqué, mais moi je trouve que le seul risque que je peux prendre, c'est de me faire chier et de faire toujours la même chose. Pour moi, c'était pas du tout un risque. Ça reste vraiment aussi un des moments les plus forts de tout mon parcours.
Sur mon cou, sans armure et sans haine, mon cou.
Dao, fan de pop.
Que ma main plus légère et grave qu'une veuve. Et fleure sous mon col, sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Oh viens mon beau soleil, oh viens ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer, et d'après l'herbe noire, accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir. Oh viens mon ciel rose, oh ma corbeille blonde. Visite dans sa nuit ton condamné à mort. Arrache-toi la chair, tu escalade mort. Mais viens, pose ta joue contre ma tête ronde. Nous n'avions pas fini de nous parler d'amour. Nous n'avions pas fini de fumer nos gitanes. On peut se demander pourquoi les cours condamnent. L'assassin si beau qu'il fait pâlir le jour. Amour, viens sur ma bouche. Amour, ouvre tes portes. Traverse les couloirs, descends et marche léger. Vole dans l'escalier, plus souple qu'un berger. Plus soutenu par l'air qu'un vol de feuilles mortes. Oh, traverse les murs, s'il le faut, marche au bord des toits, des océans. Couvre-toi de lumière. Use de la menace, use de la prière. Et viens, ô ma frégate, une heure avant ma mort.
La chanson du condamné à mort de Genet qui à chaque fois me met les larmes aux yeux.
Françoise Tison, professeur d'anglais d'Étienne Dao.
En plus, ça révèle un Étienne beaucoup plus sombre, beaucoup plus poétique d'ailleurs, et cette chanson est absolument magnifique. Et je savais qu'il a lu Genet très jeune. Donc quand il a fait cette chanson avec Jeanne Moreau à Avignon, j'ai trouvé ça absolument superbe qu'il arrive à faire ça. Et quand je l'entends encore, ça me touche énormément.
La personne qui a permis que cette chose se réalise, que ce concert prenne corps, c'est Étienne Dao. Alors, j'aimerais lui rendre hommage, le remercier, parce que je n'aurais jamais eu toute seule l'idée de ce spectacle que nous allons montrer ce soir pour la 11e fois. Vous voyez, cette rencontre avec Étienne, c'est quand même inouï, qui me force à revenir sur le passé. C'est un coup de bol incroyable.
La tournée, c'était complètement fou.
François Poggio, guitariste.
Elle avait une pêche. Elle nous donnait des conseils tous les soirs. Elle nous rassurait à un moment sur scène. Elle nous disait de profiter du moment présent. Et avant de monter sur scène, on se prend dans les bras tous. Et ça, c'est des moments qui restent vraiment magiques. Et à ce moment-là, elle disait pas mal de phrases. Moi, ce que j'en ai retenu, c'était profiter. Profiter un maximum. Donner tout et recevez aussi. Et ça, c'était fort.
J'ai assisté à des moments de complicité incroyable. À l'œil de Jeanne, il y avait une admiration.
Thierry Suc, tourneur et producteur de spectacles.
Bien évidemment que Étienne est fou d'admiration de Jeanne, ça c'est sûr. Il m'a fait découvrir le personnage plus que je ne pouvais l'imaginer. Mais Jeanne également regardait avec Étienne avec un œil de grande sœur, de parfois maman, avec une grande bienveillance. Et elle l'aimait profondément. Il y avait beaucoup d'amour. Ça, du côté d'Étienne, on le savait, mais du côté de Jeanne aussi, c'est une évidence. Il y avait, je crois que c'est la dernière œuvre qu'elle a défendue sur une scène et elle aurait aimé le défendre encore et encore. Et je crois qu'elle aurait aimé que ça continue des années et des années. Elle était heureuse de ça. Et on a vécu des moments magiques. Moi, j'ai des souvenirs aussi bien à Spoleto en Italie ou à Montréal ou dans d'autres villes où on se retrouvait sur la place de Spoleto en Italie et on buvait des spritz après, avoir vécu un moment artistique incroyable. Et Jeanne était là comme une petite fille, très heureuse et très fière d'avoir fait ça avec Étienne.
On jouait à l'Odéon.
Marcello Giuliani, bassiste.
Et on entendait gueuler dans le couloir. J'entends Jeanne qui gueule, qui disait « Ah, oh, c'est pas possible !» Donc je sors et tout. Elle était avec son peignoir. Et qu'est-ce qu'il y a, Jeanne ? Une espèce de long couloir comme ça. Elle fait « Ah, mais on peut plus fumer nulle part ! On peut plus fumer nulle part maintenant !» Parce qu'elle fumait des cigarettes longues comme ça, quoi. Et on peut plus fumer nulle part dans les loges. Je peux pas quand même sortir comme ça. Je peux pas aller dehors comme ça. Et donc, il y a l'habilleuse qu'entend qui arrive. Elle dit, non, mais Jeanne, fumez. Mettez-vous dans votre loge, ouvrez la fenêtre et fumez. Et la nana se barre. Puis elle fait, les garçons, dans ma loge, on peut fumer. Et c'était... Elle était incroyable. Elle avait 85 ans, une pêche... Moi, je me disais, bon, Jeanne Moreau, est-ce que je vais pouvoir même lui parler ? Elle dit, pas du tout. Alors, elle faisait une espèce de thé au gingembre, un truc super fort. Comme elle a vu qu'on aimait ça, elle nous préparait des thermos de thé au gingembre. Les garçons, dans ma loge !
Oh, la douceur du bagne, impossible et lointain. Oh, le ciel de la belle, oh, la mer et les palmes. Les matins transparents, les soirs fous, les nuits calmes. Oh, les cheveux tondus et les peaux de satin.
Mais Jeanne était assez punk, je me souviens, on avait fait un concert en Italie, et après le concert, comme les techniciens avaient travaillé dans un cagnard pas possible, elle était furieuse, on était furieux. Et quand le producteur est arrivé tout en phrases et en compliments venant nous inviter à une fête, elle lui a sauté dessus et elle a dit « va fond culo ». Et il n'en revenait pas et tout le monde était atterré. En même temps, c'était drôle, c'était vraiment le côté punk de Jeanne. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je l'aimais tant et que je l'aime tant, toujours.
Sandra Godin, vous êtes metteur en scène et vous avez eu l'occasion, par l'intermédiaire d'Étienne Daho, de rencontrer Jeanne Moreau.
Oui, c'était un des plus beaux cadeaux qui m'a été fait. Et c'est Étienne qui me l'a fait, c'était de rencontrer Jeanne et j'avais besoin d'une voix off pour mon spectacle. Et une vraie histoire d'amitié est née de ça. On a passé, je me souviens, des après-midi avec Jeanne, un peu comme des adolescentes, comme ça, sur son lit, à ce qu'elle me lise ses lettres d'amour, mais surtout à parler d'Étienne qui était, je pense, un de ses derniers amours. Elle avait des projets vraiment énormes avec lui. Elle disait « Je veux vivre centenaire parce que je veux le protéger, je veux qu'on habite ensemble, j'ai envie qu'on aille plus loin, qu'on aille en Amérique, je veux que les Américains découvrent Étienne. » Elle était presque obsessionnelle, hein. Elle m'appelait tous les jours quand il répondait pas ou quand il répondait par texto. Elle disait « Je veux sa voix, c'est sa voix que je veux, c'est pas ses textos. » Elle était vraiment amoureuse, tout en ayant envie de le protéger, d'être la personne qui allait l'initier comme ça à l'amour absolu. Elle disait toujours, Étienne, c'est un matelot égaré qui prend l'amour pour un rocher. Alors j'ai essayé de comprendre ce que ça voulait dire, ce matelot égaré, et elle avait envie d'être celle qui allait sauver ce matelot égaré. Voilà, elle avait cette ambition-là. Avant de mourir, c'était pour elle sa dernière mission. C'était d'aider Étienne, de le sauver de son enfance, de son passé, de le rendre heureux, comme jamais il l'avait été. Elle était mais d'une tellement touchante. Elle me lisait ses SMS et on riait. Je crois qu'il lui envoyait des SMS sur Jeanne du soir, Jeanne du matin. Et puis on riait beaucoup avec elle sur son lit comme ça, comme des ados. À savoir, est-ce qu'il allait lui répondre, qu'est-ce qu'ils allaient faire ensemble. C'était vraiment très très touchant.
Il n'est pas de hasard, il est des rendez-vous, pas de coïncidence. Aller vers son destin, l'amour au creux des mains, la démarche paisible, porter au fond de soi l'intuition qui flamboie. L'aventure belle et pure, celle qui nous révèle, superbe et enfantin, au plus profond de l'âme.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop, une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire, narration Christelle André.
Portez pas l'allégresse et la douceur de vivre, de l'été qui commence. La rumeur de Paris, comme une symphonie, comme la mer qui balance. J'arrive au rendez-vous dans l'épaisse fumée.
Dans le prochain épisode, nous observerons la manière dont Étienne Dao rencontre le succès avec la naissance de la Daomania.
J'ai commencé à me rapprocher d'Arnold musicalement déjà. On commençait à travailler ensemble. Arnold avait commencé à me proposer des musiques. Donc je suis resté à Paris avec Arnold.
Et donc on arrive dans cet appartement et puis c'est le début de l'aventure parisienne. C'est-à-dire en fait on rencontre pas mal de personnes et puis... On organise pas mal de fêtes en fait dans cet appartement où on rencontre beaucoup de gens et c'est vraiment le début.
On était obligé de rendre l'appartement parce qu'on n'avait pas un rond non plus, donc heureusement toujours on avait beaucoup de fiancés et ça nous a sauvés vraiment. de pouvoir avoir des gens qui nous hébergeaient, qui nous nourrissaient même. Il y avait plein de moments où on n'avait absolument pas d'argent pour manger. Hein. Vraiment, les parents d'Arnold sont traiteurs ou bouchers. Il avait pour mission de partir une fois par semaine pour amener des trucs à manger à Paris. Et puis on mangeait ça très vite. Puis après, au bout de 3 jours, s'il fallait recommencer, on crevait la dalle, quoi, vraiment. Mais je me souviens pas du tout de cette période comme d'une période particulièrement compliquée.
La notée dans son ensemble raconte un peu nos années 82-83.
Franck Darcel, producteur de l'album La notée, la notée.
Et l'été 83, on fait les démos à Rennes. Et on est une partie de la semaine à Dinard, Saint-Lunaire, sur ce qu'on appelle la côte d'Émeraude ici. Et en fait, une partie des textes d'Étienne, c'est comme un reportage sur cet été 83, c'est-à-dire beaucoup de soirées en boîte de nuit, dans les boîtes de nuit connues du coin, de la Chaumière, dans des endroits magnifiques. Et quand on rentre à Rennes faire les maquettes, ben, il prolonge les nuits passées sur la côte avec des textes. Il raconte... en fait, pour moi, la notée, c'est la chronique de l'année 83, tout ce qu'on a vécu, les rencontres... tous ces allers-retours entre Rennes et la fameuse Côte d'Émeraude, donc Saint-Lunaire, qui est cité dans l'album, et puis Dinard, et voilà, c'était pour nous un petit paradis sur Terre.
Ce soir, l'amour est tranquille.
l'amour est bon, la fusion est qu'illusion.